Très belle soirée, le journal.
Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. L'usine Whirlpool d'Amiens, théâtre d'une première joute entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La candidate du Front National a été acclamée par de nombreux ouvriers, alors qu'Emmanuel Macron a été chahuté. Extrait et reportage de Benjamin Illy dans ce journal. Marine Le Pen qui est désormais en tête du vote ouvrier, un électorat qui s'est droitisé depuis une trentaine d'années. Nous en parlerons avec l'invité de cette édition, Florent Gougou, spécialiste de sociologie électorale à Sciences Po Grenoble. Le chômage repart à la hausse en mars, 43 700 demandeurs d'emploi supplémentaires, l'analyse de Jean-Marc Chardon. Plusieurs milliers de policiers ont défilé aujourd'hui à Paris pour rendre hommage à leur camarade Xavier Jugelet, abattu par un djihadiste jeudi dernier. Le reportage d'Alice Serrano. C'est incontestablement le premier temps fort de cette campagne de l'entre-deux-tours. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont livrés à un duel inattendu aujourd'hui à Amiens autour de l'usine Whirlpool. Rappelons le contexte, le géant américain de l'électroménager veut délocaliser en Pologne sa production amiénoise de sèche-linge. L'usine Picard doit fermer en juin 2018. Au total, avec les intérimaires et les sous-traitants, 600 emplois sont menacés. Ce matin, Emmanuel Macron, qui est amiénois, avait choisi de rencontrer à la Chambre de commerce, les délégués syndicaux de l'entreprise, une visite inscrite à son agenda. En revanche, ce qui n'était pas prévu, c'est le déplacement de Marine Le Pen sur le parking de l'usine Whirlpool, où elle a été très bien accueillie par de nombreux grévistes.
Il faut arrêter de dire que l'État est impuissant, c'est pas vrai. Voilà. Voilà, je l'ai dit clairement, ça ne fermera pas. Voilà. Et honnêtement, je veux dire, moi, ceux qui, dans cette campagne, viennent expliquer qu'ils s'intéressent à ce qui se passe à Whirlpool, alors qu'ils défendent toutes les mesures économiques qui visent à créer la concurrence internationale déloyale et à laisser les entreprises délocaliser, je trouve que c'est un véritable scandale. Ça, c'est plus que de l'hypocrisie, c'est de la trahison.
Marine Le Pen au milieu des grévistes de Whirlpool, piqué au vif par sa rivale, Emmanuel Macron s'est à son tour rendu sur le parking de l'usine à la rencontre des salariés. Il n'est pas arrivé en terrain conquis, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le candidat d'En Marche est tout de même parvenu à entamer le dialogue. Le reportage de Benjamin Illy.
Décifé à l'arrivée, Emmanuel Macron en terrain hostile sur le parking de l'usine, il a défié la méfiance des Whirlpool. Il a tenté le dialogue au contact avec les ouvriers.
On ne peut pas interdire les licenciements, parce qu'il y a des licenciements qui se justifient, d'autres non. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur un cas comme vous? On doit se battre pour qu'il y ait un repreneur. Sur le PSE, si je suis élu président de la République, il n'y aura aucune homologation de complaisance. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui gagne de l'argent, qui est productif, qui a servi du dividende.
Donc ça, vous le garantissez?
Mais ça, je vous le garantis. Il n'y aura pas d'homologation de complaisance s'il n'y a pas un plan social qui est au niveau de la réponse qu'il vous doit.
Ça, vous vous engagez à faire respecter ce...
Je ne suis pas en train de vous dire je vais nationaliser Whirlpool, vous voyez? Ça, c'est de la pipe. Ce que je suis en train de vous dire, je peux vous le dire et je peux aller au bout.
Une heure de discussion tendue, mais quand Emmanuel Macron est reparti, l'ambiance semblait plus apaisée. Nadine, 49 ans, 25 ans chez Whirlpool.
Je vais prendre ma décision. Il y a des choses qu'il a dit qui sont bien. Après, il y en a d'autres pour les ouvriers, c'est vrai que c'est moins bien.
Est-ce que, entre guillemets, il a un peu inversé la tendance?
Il l'a fait tard, mais il l'a fait. On verra bien.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pardonné l'amiénois?
Je ne pardonne jamais. Je suis rancunière.
La rancune tenace, Emmanuel Macron a donc tardé pour cette rencontre, selon les Whirlpool, selon les salariés. Il a tardé à entendre le malaise social dans sa ville natale.
Benjamin Illy, merci. Emmanuel Macron, qui dans cette affaire doit aussi composer avec les déclarations surprenantes de certains de ses soutiens. Ainsi, Jacques Attali sur TF1, l'ancien conseiller de François Mitterrand, a qualifié d'anecdote le dossier Whirlpool. Anecdote dans un contexte plus large, a-t-il précisé. Propos qui n'ont pas vraiment plu à Emmanuel Macron et à son entourage, avec cette réplique sur Twitter de Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche. Ce que dit Attali sur Whirlpool est une méprisable anecdote qu'il se taise. Fin de citation. En tout cas, le vote ouvrier est l'un des enjeux de cette campagne présidentielle. La classe ouvrière, qui représente 20% environ du corps électoral, contre 40% jusque dans les années 70, Marine Le Pen est aujourd'hui en tête dans cet électorat ouvrier. Invité de ce journal, Florent Gougou, enseignant-chercheur à Sciences Po Grenoble, spécialiste de sociologie électorale. Bonsoir.
Bonsoir.
Florent Gougou, ce qui s'est passé aujourd'hui à Amiens prouve que le FN est devenu le premier parti ouvrier de France?
Je ne sais pas si ça le prouve, en tout cas ça confirme, ça va dans le sens des observations qu'on peut faire en sociologie électorale depuis une vingtaine d'années sur les transformations du vote des ouvriers. Ces transformations du vote des ouvriers, c'est d'abord, première grande dynamique, le déclin du vote de gauche. Et c'est quelque chose qui a débuté dès les années 70 Et dans un deuxième temps, à partir de la fin des années 80, on a observé au sein du vote ouvrier de droite un surplus très important du vote Front National par rapport au vote pour la droite modérée. Dès 1988, on observait cette dynamique-là. Elle ne fait que s'amplifier depuis 1988. Au point qu'on est arrivé en 2012, par exemple, on avait un écart de plus 12 points chez les ouvriers pour Marine Le Pen par rapport à son score dans l'ensemble de l'électorat. Ici, si on en croit les données fournies par Ipsos, au lendemain du premier tour, on a un surplus de plus 16 points.
Et concrètement, que pèse le vote ouvrier chez Marine Le Pen ?
Alors, si vous réfléchissez à l'intérieur de l'électorat du Front National, c'est quasiment 40% des électeurs FN qui sont aujourd'hui de profession ouvrière. Et si vous réfléchissez parmi les ouvriers, c'est un peu plus de 35% des ouvriers qui votent pour le Front National au premier tour de l'élection présidentielle.
C'est donc un phénomène qui s'est accentué avec le premier tour de la présidentielle.
C'est un phénomène qui s'est accentué tout simplement parce que la dynamique principale de ce vote ouvrier pour le Front National, c'est d'abord le renouvellement des générations. Ce sont des nouvelles générations d'ouvriers qui, quand elles rentrent dans le corps électoral, sont systématiquement un petit peu plus favorables au Front National que leurs devancières. Si bien qu'à mesure que se renouvelle le corps électoral, le Front National progresse chez les ouvriers. Là, on est au record pour une formation de présidentielle de survote des ouvriers pour le Front National avec un avantage de l'ordre de 17 points.
Jean-Luc Mélenchon, avec ses presque 20%, n'a donc pas réussi à progresser dans le vote ouvrier ?
Alors, encore une fois, si on en croit les données d'Ipsos, on a également un petit survote des ouvriers en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui fait donc 19 points sur l'ensemble de l'électorat français, et on a 24% chez les ouvriers. Donc on a un écart de 5 points qu'il ne faut pas négliger, mais qui n'a, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport au Front National, absolument rien à voir. On a un survote de l'ordre de 17 points en faveur du Front National. En revanche, c'est quelque chose de nouveau qui se passe autour de Jean-Luc Mélenchon. On n'avait pas vu ça en 2012, ce survote des ouvriers. Donc il s'est passé quelque chose en 2017 autour de Jean-Luc Mélenchon chez les ouvriers, mais ce n'est pas quelque chose qui a la même ampleur par rapport à la dynamique autour de Marine Le Pen.
Et donc le FN, premier parti ouvrier de France, ça n'est pas un slogan, c'est une réalité.
Si vous regardez l'élection présidentielle française, c'est effectivement le parti qui reçoit le plus de suffrages ouvriers. Pour autant, cette expression, c'est très bien pour le côté spectaculaire, mais il faut réfléchir de manière plus générale aux comportements électoraux, et notamment si vous tenez compte aussi de la question de l'abstention, vous n'avez pas des choix électoraux qui sont aussi francs et massifs de la part des ouvriers, c'est une partie significative des ouvriers qui s'abstiennent. Alors oui, Marine Le Pen est aujourd'hui la candidate qui reçoit le plus de suffrages exprimés des ouvriers. Pour autant, je ne suis pas complètement certain qu'il faille en faire ce grand slogan de savoir qui est le premier parti ouvrier de France.
Florent Gougou, pourquoi cet attrait pour Marine Le Pen chez les ouvriers ? C'est le discours protectionniste et anti-européen du FN ?
Tout au contraire, c'est d'abord l'hostilité à l'immigration. L'hostilité à l'immigration, c'est le moteur principal du vote pour le Front National. Si vous regardez, encore une fois, les motivations de vote des électeurs du Front National, qu'ils soient ouvriers ou pas, c'est d'abord l'immigration et l'insécurité qui sont les principales raisons qui poussent au vote pour le Front National. Or, et ça aussi c'est un grand résultat de la sociologie politique, depuis les années 60, on mesure une très forte hostilité des ouvriers envers les immigrés. Pendant longtemps, ça ne s'est pas traduit en vote. Jusqu'au début des années 80, l'immigration n'était pas un enjeu électoral. C'était une question qui se posait pour les politiques publiques, mais ce n'était pas quelque chose qui faisait le vote. Depuis le milieu des années 80, c'est devenu un enjeu électoral très important, si bien que cette hostilité à l'immigration, elle peut se traduire en comportement électoral. Et on observe que ce qu'il veut unir les électeurs du Front National, c'est d'abord leur hostilité à l'immigration. Et cette hostilité à l'immigration, elle est particulièrement élevée chez les ouvriers. C'est donc pas une surprise de retrouver chez les ouvriers le fort taux de pénétration du vote Front National.
C'est donc un peu un rejet de la mondialisation.
Évidemment, c'est ça le cœur en fait de ce qui se joue dans l'hostilité à l'immigration. C'est d'abord le fait que la mondialisation est la grande révolution du dernier demi-siècle et qui a produit des transformations à la fois dans la dimension économique avec une transformation des flux d'échanges et des flux de travailleurs, et aussi dans la dimension culturelle avec l'arrivée de beaucoup de travailleurs d'origine étrangère. Au fond, on rejoint là une grande littérature en sciences politiques qui montre que la mondialisation a créé ce qu'on appelle un nouveau clivage Donc une nouvelle grande ligne de fracture au sein de la société française qui a à la fois des dimensions économiques et des dimensions culturelles. Le fond du problème, c'est d'abord la remise en cause de l'État-nation. Certains groupes sociaux sont attachés à l'État-nation parce que il est la sphère naturelle de création des solidarités entre individus et d'autres estiment qu'on pourrait avoir une citoyenneté plus cosmopolite. Les ouvriers sont plus volontiers du côté de l'hostilité à la remise en cause de l'État-nation.
Florent Gougou de Sciences Po Grenoble, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En tout cas, les difficultés de Whirlpool symbolisent le marasme de l'économie française qui peine à endiguer le chômage. Et les chiffres de mars sont mauvais. Une hausse de 1,3% il y avait le mois dernier. 3 510 000 chômeurs en métropole. Jean-Marc Chardon, la promesse de François Hollande d'inverser la courbe du chômage avant la fin du quinquennat, eh bien cette promesse s'est remise en cause.
Surprenant, les derniers chiffres du chômage, une hausse forte à plus de 47 000 sur un mois, alors que les déclarations d'embauche de plus d'un mois ont progressé fortement à 2,8% des recrutements bien réels. Comme si l'emploi augmentait d'un côté et fuyait en même temps. Ce paradoxe, il n'est pourtant qu'apparent. Les nouveaux demandeurs du mois de mars ne le sont qu'en partie. Beaucoup figuraient dans les catégories B et C sur un régime d'activité réduite, faute d'avoir obtenu le renouvellement d'un contrat. Ils ont basculé massivement en catégorie A. Du coup, faut-il y voir la fin d'un cycle de baisse amorcé l'an dernier, avec un recul du chômage estimé à 0,9% sur un an. Difficile d'être affirmatif, l'INSEE prévoit une légère baisse du chômage alors que le diagnostic de l'UNEDIC entrevoit une légère hausse. Et cela alors que les intentions d'embauche des entreprises, elles remontent, qu'il s'agisse d'emplois qualifiés ou pas. Elles remontent avec des offres d'emploi qui pourraient grimper à 8% et plus, certes, mais à l'expérience, elles ont du mal, ces intentions d'embauche, à se concrétiser rapidement en période électorale pour cause tout simplement d'incertitude. De quoi brouiller en tout cas un peu plus les perspectives d'emploi sur un marché du travail mieux orienté, mais franchement indécis.
Jean-Marc Chardon, merci. Moins d'une semaine après l'attentat des Champs-Élysées, plusieurs milliers de policiers ont manifesté aujourd'hui à Paris pour rendre hommage à l'un des leurs, Xavier Jugelet, victime du terrorisme islamiste. L'organisateur de ce rassemblement, le syndicat Unité SGPFO, revendique plus de 8000 manifestants. Après un défilé entre la Tour Montparnasse et les Invalides, le cortège a marché en silence vers les Champs-Élysées. Le reportage d'Alice Serrano.
Avant le coup d'envoi, une minute de silence en hommage à Xavier Jugelet, assassiné sur les Champs-Élysées. C'est d'ailleurs une grande banderole noire qui ouvre la marche avec ces mots « policiers en deuil ». L'attentat de jeudi dernier alimente le ras-le-bol des manifestants.
Nous sommes des cibles dans tous les communiqués de Daesh. Ils ont bien dit qu'ils s'en prendraient aux agents de l'État, policiers, gendarmes et militaires. On l'a encore vérifié malheureusement jeudi soir dernier. Notre collègue n'a eu aucune chance. Donc ça fait augmenter l'exaspération et la colère. C'est pour ça que nous sommes aussi là aujourd'hui.
Noués autour de leurs bras, autour des fagnons, ces foulards noirs en signe de deuil. Xavier dans nos cœurs, entend-on dans le cortège, mais aussi policiers attaqués, société en danger. Ces milliers de manifestants venus de toute la France réclament davantage d'effectifs, plus de reconnaissance venant de leur hiérarchie, moins de week-ends travaillés. Leur secrétaire général, Yves Lefebvre, interpelle les candidats.
Monsieur Macron, Madame Le Pen, cette colère, vous devez l'écouter. J'en ai marre des fameux discours. Alors le prochain ou la prochaine, il doit nous apporter des solutions. Le temps de travail, la rémunération, la protection, avoir enfin une justice qui nous protège. Mais on ne lâchera rien.
Le syndicat refuse de donner une consigne de vote, mais vu l'ampleur de la mobilisation quasi inédite, Unité SGPFO espère bien être reçu par chacun des deux candidats avant le second tour.
Alors je t'ai approché.
Le reportage d'Alice Serrano avec cette chanson de Renaud, J'ai embrassé un flic, chanson composée après les manifestations monstres qui avaient suivi les attentats contre Charlie Hebdo et l'hyper cachère. Le gouvernement français en est convaincu, c'est bien le régime Assad qui a attaqué à l'arme chimique le village de Ran Cheroun en Syrie, dans la province d'Idleb, il y a 3 semaines. Attaque qui avait fait 90 morts, dont une trentaine d'enfants. Ce matin, le ministère français des Affaires étrangères a présenté des éléments qui constituent à ses yeux autant de preuves de l'implication du régime syrien. Il y a notamment l'utilisation du gaz sarin et la présence d'un avion de l'armée syrienne dans le secteur de Ran Cheroun le jour de l'attaque. On termine ce journal avec la météo. Demain, toujours la pluie et la fraîcheur sur la plupart des régions. Encore des gelées matinales sur les deux tiers nord. Les pluies seront fréquentes sur l'est du pays avec de la neige en montagne. Bretagne. Température maximale 10 à 14 degrés en moyenne, de 14 à 19 près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.